Bonjour à toutes et à tous, ici Laura Le Sueur et bienvenue sur le podcast des Ambitieuses. Les Ambitieuses, c'est un podcast sur l'ambition féminine. L'ambition, terme si ambivalent dans notre culture française. Spontanément, on l'associe à une forme d'individualisme, une quête de pouvoir personnel motivée par la mégalomanie ou par l'appât du gain. Pourtant, il est tout à fait possible d'en faire une interprétation plus noble. Dans ce podcast, j'interroge celles qui font mentir les statistiques. Quand on sait que seuls 30% des entreprises sont créées par des femmes et qu'encore uniquement 15% d'entre elles sont présentes au COMEX, il y a de quoi s'interroger. Ensemble, nous allons creuser l'envers du décor, au travers de parcours et d'horizons divers que sont ceux de mes invités. Quelle est leur définition de l'ambition ? Comment est-elle vécue selon les âges, les situations familiales, les contextes sociaux ou culturels ? Comment s'assure-t-elle dans une société où la parité salariale n'est pas encore toujours respectée ? Et comment s'assume-t-elle dans un pays où le congé paternité n'est que de 11 jours ? Les ambitieuses, ce sont d'abord et surtout des femmes qui ont fait des choix libres, des femmes qui ont osé, qui ont tenté l'audace pour se réaliser, des femmes qui ont su tracer leur voie et faire entendre leur voix. Je mets en lumière et partage avec vous ces parcours inspirants, ces choix ambitieux de celles qui construisent leur légende personnelle au quotidien. Elles sont entrepreneurs, écrivains, sportives, chefs de restaurant, artistes, mères au foyer, politiques, ce sont les ambitieuses. J'espère de tout cœur que chaque épisode vous inspirera et vous donnera envie, pourquoi pas, de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram, Les Ambitieuses Podcast, ou vous pouvez également m'écrire sur LinkedIn à Laura Le Sueur. Si ce podcast vous plaît, prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Il me reste maintenant à vous souhaiter une bonne écoute, en espérant que cet épisode vous plaira. Aujourd'hui, j'interroge Olivia de Posson. Olivia est aujourd'hui une artiste peintre dont vous pouvez retrouver les superbes œuvres sur le site internet en note de l'épisode. Mais avant de s'accomplir et s'épanouir dans ce métier, Olivia a dû batailler pour oser affirmer ses envies profondes. Si dès son enfance, elle danse, dessine et ressent très jeune des vibrations artistiques, elle emprunte un cursus classique en faisant une école de commerce renommée, l'ESCP, démarre par un premier job en banque chez Goldman Sachs. Elle passera 12 ans dans la finance avant de monter son propre cabinet de recrutement. Et puis, elle se remet à peindre, sans pour autant penser qu'elle pourrait en vivre. Un jour, se présente l'opportunité d'exposer ses toiles le temps d'une soirée, et là, carton plein. Elle vend plus de 10 toiles en une expo. Après un voyage en Asie où elle lâche prise et prend le temps de rencontrer des gens qui vivent une vie radicalement différente de la sienne à l'autre bout du monde, elle se retrouve et se reconnecte à ses aspirations profondes et décide finalement de faire de la peinture son métier à plein temps. Aujourd'hui, Olivia vit de sa passion et est pleinement elle-même, mais ce fut un long chemin. Dans cet épisode, elle nous parle avec la spontanéité et l'énergie artistique qui la caractérise, de son chemin vers elle-même, de sa quête de vérité et de comment elle est parvenue à se reconnecter à son intuition. Je vous laisse découvrir le parcours d'Olivia au travers de cet épisode. Belle écoute. Ben bonjour Olivia.
Bonjour Laura.
Alors Olivia, écoute, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour parler de ton parcours, de ton métier d'artiste que tu exerces aujourd'hui à Bruxelles. Alors pour la petite histoire, nous on s'est connus par des amis d'amis communs puisque moi j'étais en voyage à Nice et j'ai repéré un tableau qui m'a vraiment tapé dans l'œil chez des amis. J'ai demandé qui avait peint ce tableau et il se trouve que c'était toi et donc j'ai pris contact avec toi via Instagram. J'ai regardé un petit peu ce que tu faisais, j'ai adoré ton travail et j'ai même acheté une de tes toiles pour mon appartement parce que on va en reparler, mais j'aime beaucoup la manière dont tu exprimes en tous les cas ton art.
Ça fait trop plaisir. Ça, c'était pour la Merci.
C'était pour la petite histoire pour les auditeurs et les auditrices. Si tu veux bien, pour commencer, avant que tu nous parles un peu de ce parcours professionnel, est-ce que tu peux tout simplement te présenter en nous disant qui tu es, quel âge tu as, d'où tu viens, et puis peut-être commencer en disant quel genre d'enfance, d'éducation tu as eu.
Donc, bonne question. Donc, du coup, je m'appelle Olivia, je vis pour le moment à Bruxelles, mais j'ai vécu un peu En fait, je suis née à Londres, j'ai grandi en France et je suis retournée travailler à Londres pendant 13 ans. Donc, je viens seulement d'arriver à Bruxelles. Voilà, donc j'ai eu un peu une enfance un petit peu internationale, européenne, on va dire. Je me suis jamais sentie ni belge, ni française, ni anglaise, mais un peu européenne, on va dire. Et donc, une enfance assez classique, sauf du fait qu'on a voyagé. Et voilà, donc seule fille avec trois frères. Je suis un peu l'enfant du milieu parce que mes petits frères sont des jumeaux. Et un peu la seule artiste dans la famille, ce qui n'était pas toujours évident, mais qui à la fois permet de me mettre les pieds sur terre aussi. et donc voilà, donc une enfance plutôt heureuse dans la nature. On a, donc, comme je disais, en fait, je suis née à Londres, mais à 5 ans, on est parti en France. Et là, on vivait près de Paris, mais dans la nature. On était à un endroit qui s'appelle Saint-Nom-la-Bretèche, donc c'était super agréable d'être connecté à la nature et tout. Et on était très famille parce que là-bas, du coup, on n'est pas en ville avec prendre des cafés avec les copains du coin. Donc on était assez en famille, en fait. Et à jouer avec tout ce qui nous inspirait autour de nous. Et donc, en fait, ouais, et puis en fait, dès toute petite, j'étais toujours très sensible, avec les sens très développés, les sensations très développées et très artiste dans mon monde, que ce soit en cours, en train d'écrire des poèmes.
Oui, j'allais te demander, du coup, tu grandis avec trois frères, toi, tu es au milieu, donc tu développes assez tôt cette fibre artistique. Et quel genre de petite fille t'étais? Est-ce que t'étais un peu garçon manqué ou pas du tout? Enfin, qu'est-ce qui t'attirait? Est-ce que tu te souviens qu'il y avait un métier peut-être que tu voulais faire quand t'étais...
En fait, moi, ce que j'adorais, c'est ce que je suis aujourd'hui, ce que je faisais tout le temps. Je suis redevenue moi, en fait. Moi, je passais ma vie à dessiner, à écrire, à chanter, à danser, à bouger, en fait, à suivre mon cœur, mon intuition, à me laisser guider. Et c'était que, en fait, ma vie était un art, était intuitive. J'ai toujours été super intuitive et toujours à suivre mes vibrations. Voilà. Et donc, très active, mais de façon sensible et artistique, pas active à jouer au football ou des choses comme ça. Mais, et donc, en fait, c'est ce que je suis redevenue aujourd'hui. Donc voilà. Mais j'étais pas un garçon manqué. Après, c'est vrai que j'avais que des frères, donc je jouais pas à la Barbie. Mais j'étais pas un garçon de mon manqué non plus, parce que j'ai toujours été très sensible.
Je trouve ça intéressant la formule que tu utilises spontanément quand tu dis je suis redevenue moi, parce qu'en fait ça montre que tu t'es reconnecté, et tu vas nous en parler, mais à ton enfant intérieur qu'on a toutes et tous, et donc c'est intéressant comme formulation, je trouve.
Non, mais c'est génial parce que ce qui prouve que je suis dans le bon, parce que en fait c'est moi quoi, c'est comme ça que j'étais avant et je suis c'est génial.
Exactement. Et alors finalement, comment est-ce que tu vis la période, on va dire, de scolarité? Qu'est-ce que tu décides de faire après ton bac?
Ouais, alors la scolarité, moi j'ai jamais aimé et le travail en entreprise non plus. Et voilà. Et en fait, c'est pas que j'aimais pas, j'adore apprendre, j'ai toujours adoré apprendre et j'avais des bouquins de filé auprès de mon lit dès toute petite, c'était pas ça, et je réussissais très bien à l'école. Mais je détestais, j'ai toujours détesté, je déteste aujourd'hui. C'est hyper dur pour moi, les contraintes de devoir se réveiller, d'aller. Enfin, je me souviens que mon pauvre père qui me déposait tous les matins en voiture, je crois qu'il se faisait injurier chaque jour, j'étais réveillée en dernière minute. Enfin, pour moi, ça a toujours été super dur, ça. Et donc, pareil, pour aller au bureau, super dur, et j'ai besoin de beaucoup de temps dans mon monde pour moi-même. Donc, du coup, je dormais peu parce que du coup, je me réveillais très tôt pour avoir du temps pour moi avant de pouvoir. D'être obligée d'être dans l'école ou au bureau, quoi. Mais, et sinon, du coup, les études, oui, par contre, je ne m'écoutais plus à un moment parce que, on est éduqués dans une certaine façon, avec une école qui nous construit d'une certaine façon et nos familles aussi. Et donc, même si je passais mon temps à chanter, à écrire des poèmes et à dessiner, mes parents m'avaient dit, c'est super tout ça, mais tu fais d'abord des études généralistes où tu pourras tout faire dans ta vie, du coup, peu importe ce qu'il arrive. Et si plus tard, t'es encore passionné par tout ça, libre à toi de faire ça plus tard. Et je dis pas qu'ils ont eu tort, hein, mais bon, en tout cas, c'était pas moi, mais du coup, je l'ai fait, j'ai suivi, et c'est peut-être une bonne idée, pourquoi pas. Et donc, du coup, j'ai fait une voie assez classique, et j'ai même fait plutôt des jobs et des études plutôt pas mal, genre j'ai étudié à l'ESCP, j'ai travaillé chez Goldman Sachs.
Mais donc, du coup, Olivia, tu commences par, si je comprends bien, tu fais une prépa et ensuite tu rentres à l'ESCP qui est donc une école de commerce, c'est ça?
Ouais, exactement. Sauf que moi, j'ai pas fait la prépa parce que j'étais belge et donc, enfin, je suis belge. Et en fait, je suis allée découvrir mon pays. Donc, j'ai quitté la maison à 17 ans pour aller découvrir, mais j'avais terminé, enfin, j'avais passé mon bac. Et je me suis dit, tiens, je connais pas la Belgique en fait, alors que je suis belge et il y a des super études en Belgique. Et donc, je suis allée à Louvain-la-Neuve. Et là, j'ai fait mes deux premières années d'études là-bas, que j'ai réussi. Mais mes parents et mon grand frère me disaient, oui, essaye de passer les concours d'école de commerce, c'est vachement bien aussi et tout ça. Et donc, bon, bah, j'écoutais. Et donc, j'ai passé les concours. Et voilà. Et donc là, j'étais à l'ESCP. Mais donc, du coup, je suis passée par la voie belge et pas française. Donc, c'est pas une prépa.
D'accord. Ouais. D'accord. Et alors, comment tu vis cette entrée dans le monde assez particulier hein, de l'école de commerce? Est-ce que tu t'y épanouis ou est-ce que tu...
C'est super drôle. En fait, je me souviens, mon premier jour, j'étais assise en cours le premier jour, quoi. Et j'étais en train de faire des dessins parce que moi, depuis que je suis toute petite, en fait, ça me permet de me concentrer en fait en cours et tout ça, de dessiner. C'est une façon, c'est des dessins complètement abstraits qui me permettent de me concentrer. Mais donc, j'étais en train de dessiner. Et mon voisin de classe me dit tout de suite, mais tu t'es trompé d'études, toi. Tu vois, c'était trop marrant. Et en effet, aujourd'hui, je me dis, mais il avait trop raison. Mais je m'en rendais pas vraiment compte. Et, mais bon, mais ça s'est très bien passé à l'ESCP. Mais j'avoue que moi, je venais de passer 2 ans libres en Belgique parce que l'université était vachement plus libre. Et en fait, c'était génial, mes 2 années en Belgique. J'étais enfin redevenue moi aussi à ce moment-là parce que j'étais plus dans ma famille avec... qu'on me disait de faire ceci, cela. Donc, je vivais comme une artiste, nuit et jour, à faire de la musique, à peindre, on écrivait des BD, on vivait la nuit, enfin, on se laissait vivre par notre cœur. Et bon, je réussissais quand même mes études, donc c'est pas grave. Mais par contre, donc j'avais adoré mes 2 années en Belgique. Et par contre, tout à coup, de devoir aller à Paris parce que, bah oui, j'avais la chance d'être prise à l'ESCP, mais en fait, j'étais hyper triste. Parce que là, je me retrouvais à nouveau, pas du tout que j'aime pas ma famille, mais j'avais l'impression de me retrouver à nouveau dans une espèce de discipline avec des contraintes et plus ma liberté. Et plus... Donc, je retournais habiter chez mes parents et le CP, bah, il faut aller en cours tous les jours. Et, enfin, c'était plus vraiment moi. Donc, j'avoue que je m'étais à nouveau éteinte. C'était plus vraiment moi. Mais bon, c'est pas grave. J'ai aimé quand même les cours et les gens. Et c'était chouette. Mais pour moi, il manquait énormément de liberté.
Oui, bien sûr. Ouais. Et alors finalement, après ces années d'école de commerce, alors je ne sais pas si pendant ton parcours à l'ESCP, tu voyages ou pas?
Alors pendant mon parcours à l'ESCP, juste les étés pour mes stages, donc je faisais mes stages à Londres en banque d'affaires, super. C'est pareil, je suivais ce qu'on m'avait dit de faire, moi j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, en fait je m'en fichais un peu. Et parce qu'en fait moi je pense pas que je suis pas faite pour le monde d'entreprise même si je l'ai fait, mais en fait donc je suivais vraiment mon grand frère qui me disait tu devrais bosser en finance, c'est très bien. Alors je dis ok. Donc voilà. Ouais. Et donc je faisais tous mes stages l'été à Londres, et sinon je suis restée tout mon parcours à Paris de l'ESCP, sauf que je vais faire un Erasmus à Madrid, mais au lieu de faire les 6 mois, j'ai fait 2 mois. Enfin, j'avais un petit problème de santé, rien de grave. Mais donc voilà. Donc au final, pas beaucoup de voyages, à part pour le plaisir. Mais voilà.
D'accord. Oui, donc finalement, tu t'orientes vers tout ce qui est finance, banque d'affaires, qui est quand même assez diamétralement opposé au côté
technique. Ouais. Mais au final, on a besoin de créatifs un peu partout. Et je pense que c'est peut-être pour ça que je faisais peut-être la différence aussi, je sais pas, parce que c'est pas que je suis pas capable d'être dans la logique et le rationnel et tout ça, ça je l'ai fait, mais c'est juste qu'il y a ce qui me fait vraiment vibrer et ce qui me fait vraiment toute l'énergie de vie, c'est pas là-dedans, mais peut-être que c'est ce qui faisait ma différence aussi, que j'avais en plus ce petit côté un peu créatif, un peu vivant, un peu du cœur, un peu je sais pas. Et mon rôle était toujours plutôt tourner vers les clients, donc j'étais sales en salle de marché, donc oui. Et ça j'adore les gens et j'adore le contact, et ça c'est un truc en fait qui vient naturellement. Donc en fait ce que j'aimais pas, c'est d'être coincée sur ma chaise au bureau, mais par contre de voyager, de rencontrer des clients, d'apprendre des choses, de rencontrer les entreprises qu'on couvrait, ça j'aimais bien, c'était intéressant. Mais c'était juste la contrainte de tous les jours au même endroit, obligé à telle heure, pour moi c'est compliqué.
Oui, ça te correspondait pas.
Non. En fait, moi, j'ai besoin de suivre mon intuition. Et en fait, là, on ne peut pas suivre son intuition. C'est obligé de faire...
Oui, il y a une standardisation qui ne te correspondait pas.
Oui.
Et finalement, alors, le premier job, tu disais, c'était dans quelle banque et dans quelle ville?
Oui, donc premier job à Londres, chez Goldman Sachs, qui est une banque américaine, une banque d'affaires. Oui,
d'accord.
Et là, donc, j'étais en salle de marché. J'étais vendeuse d'actions sur un floor de 500 personnes où je vais être au bureau à 6h du mat. De 6h à 19h, et on était franchement esclaves, genre on pouvait pas se lever 2 secondes pour aller prendre un café ou je sais pas quoi, sauf si on a parti en rendez-vous de client, mais voilà. En plus, c'était une drôle de vie, une autre vie.
Alors, ce que tu décris, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tous les cas, quand tu en parles comme ça, ça me fait vraiment penser à ces films. Alors, tu sais, le film qui a été fait sur l'affaire Kerviel en France, ou alors même au Loup de Wall Street,
ouais.
qui sont des milieux, déjà, tu vas me dire si c'est ça, si c'était ça, mais des milieux hyper challengeants, avec beaucoup de pression,
ouais.
et très masculins aussi. Il y avait beaucoup de femmes.
Ouais. Mais bon, moi, j'ai commencé mon job en 2006. Et il y en a quand même maintenant, donc on est en minorité, c'est certain, mais c'est pas non plus les années 80 où je pense qu'il n'y en avait pas du tout. Mais et moi j'étais dans un rôle de vendeuse, donc il y a déjà un peu plus de femmes dans des rôles de vendeuse que dans des rôles de je sais pas IT ou des choses comme ça, voilà.
Oui.
Mais non, on était clairement en grande minorité, quoi, ça c'est certain. Et c'est en effet hyper challenging et tout, mais peut-être que quelque part je détendais l'atmosphère. Peut-être que je faisais du bien, mon enthousiasme faisait du bien à l'équipe. Mais je sais pas.
Ouais. Et alors finalement, combien de temps tu restes dans ce job? Et puis j'ai envie de te demander aussi, pendant les années où tu restes dans ce poste-là, qu'est-ce que tu fais avec le recul, qu'est-ce que tu fais de l'intuition dont tu parlais? Est-ce que tu la tais un petit peu, ou est-ce que, parce que tu es vraiment focus sur ce que tu fais malgré tout, ou est-ce que quand même il y a quelque chose qui te titille à l'intérieur? Enfin, comment tu vis tout ça et combien de temps tu restes dans ce premier job?
Ouais, bah en fait, je suis restée 12 ans en finance, mais pas 12 ans dans ce premier job. Donc ce job, j'ai eu 3 ans, il me semble. Et mais en fait, j'éteignais complètement toute une partie de moi, hein, c'est sûr.
Oui.
Et mes amis me le faisaient remarquer, et ça se remarquait dans le choix de personnes avec qui j'étais. J'étais mariée à ce moment-là aussi. Pareil avec quelqu'un où je m'écoutais pas. En fait, je m'étais complètement effacée. Et alors, j'avais arrêté de peindre aussi parce que justement enfin voilà, la personne avec qui j'étais trouvait que ça ne servait à rien, que j'allais pas gagner ma vie avec la peinture et que c'était moche. Donc ouais. En fait, voilà, j'étais éteinte, quoi. Et en fait, ce qui m'a permis de me reconnecter petit à petit à moi-même, c'est qu'en fait, j'ai divorcé très vite. Enfin, à cette époque-là, j'étais mariée. Mm-hmm. Et en fait, là, du coup, j'ai arrêté de m'effacer, quoi. J'ai recommencé à me connecter à moi. Je me suis dit, non, je quitte la banque. Je me remets à peindre. Enfin, voilà, enfin, c'est venu naturellement. Je me suis pas mis une règle comme ça, mais. Et donc là, j'ai monté une boîte de recrutement chasseur de tête pour les banquiers. Et là, j'étais très jeune, j'avais 26 ans, donc après 3 ans de boulot. Et en fait, j'avais besoin toujours de cette liberté. Enfin, donc je me suis dit, non, en fait, c'est pas moi. Moi, je suis faite pour être indépendante. Donc, j'ai monté ma boîte de chasseur de tête pendant 4 ans. Ça marchait bien. Et en fait, je recrutais des banquiers seniors qui faisaient les jobs que j'avais faits. Comme ça, je comprenais leur métier. Et voilà. Et donc, je trouvais des clients qui étaient des banques et des candidats. Enfin, voilà. Et à côté, je peignais. Et donc, je m'étais remise à peindre parce que ça me nourrissait, parce que, enfin voilà, c'est venu naturellement, c'était vraiment par pur plaisir, parce que c'était en fait une seconde peau pour moi, et c'était génial de retrouver ça. Mais j'avais jamais pensé à vendre ou quoi que ce soit. Et à côté de ça aussi, j'aime bien, enfin bon, en fait je suis hyper curieuse et j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, donc j'avais le temps de faire d'autres choses. Et donc j'avais aussi donné des cours de finance à l'ESCP à Londres. Donc voilà, donc ça c'était génial, c'était 4 ans où j'étais super libre entre mon cabinet de recrutement, mes cours de finance et ma peinture. Mais bon, peut-être que j'en faisais un peu trop, mais peu importe. Et la peinture, en fait, c'est génial. Petit à petit, j'ai eu trop de chance. Plein de gens m'ont dit, mais on adore ce que tu fais, tu veux pas vendre et tout. Et du coup, j'ai fait ma première expo en 2009, mais ça, c'était un vernissage privé, hein. Mais, comme ça, en un soir, j'ai vendu 11 toiles. Je me suis dit, hein? Bon, c'était génial, quoi. Ça m'a complètement, je me suis dit, waouh, mais je peux, en fait, pour moi, c'est un pur plaisir de peindre. Je considère pas, absolument pas ça comme du travail, mais en plus, enfin, ça plaît vraiment, quoi. C'est pas. Et donc voilà.
Et petit à petit. Une question, je me permets de t'interrompre juste pour bien comprendre.
Oui.
Comment est-ce que tu arrives à ce moment-là à faire un vernissage pour ceux que ça intéresse, tu vois? Comment est-ce que tu passes de voilà, je peins de mon côté chez
moi? Ouais. Alors, en fait, c'est venu de faire un vernissage parce que, par chance, plein de gens aimaient ce que je faisais. Et en fait, je connaissais quand même beaucoup de monde parce que. Peut-être que à la fois de ma personnalité mais de mon métier, enfin j'étais toujours en contact avec des gens, donc du coup il y avait souvent des gens qui venaient chez moi et donc j'avais entendu plein de fois des gens qui me disaient mais je veux t'en acheter, j'adore et tout ça, donc du coup je me suis amusée à organiser un vernissage comme ça vraiment sans aucune attente Et où là, bah, dès le premier truc, on soit le de vendu. Et donc, j'en faisais de temps en temps, des vernissages privés. À chaque fois, ça vendait bien. Et puis, un an après, en 2010, j'ai eu une expo dans une galerie à Bruxelles, juste 4 jours. Et j'avais apporté 4 toiles, j'en ai vendu 3. J'étais pas là, je connaissais personne. Et en plus, c'était des prix déjà plus élevés. Donc, tout ça m'a confortée. Donc, petit à petit, en parallèle de mon job, par contre, je n'osais pas faire que ça parce que, bah voilà, j'avais pas été éduquée comme ça, je me rendais pas compte. Puis voilà, c'était le début, donc même si ça marchait bien, je savais pas encore ce que ça allait vraiment donner. Et je me sentais obligée de, enfin, je croyais que dans la vie, on était obligé d'avoir un job en entreprise, et je trouvais ça tellement glauque d'ailleurs, mais bon. Donc j'ai quand même continué, pendant quelques années. C'est que en décembre 2017 que j'ai complètement changé. Alors que j'ai commencé à bosser en 2006. Mais bon. Mais pendant toutes ces années, je vendais des toiles, je peignais la nuit et le week-end. Et je faisais des expos, j'avais des contrats avec des promoteurs immobiliers qui vendaient les maisons avec les œuvres d'art, enfin, des choses comme ça. Donc je voyais que ça marchait bien. Et je m'étais toujours dit, donc ensuite j'ai repris un job après mon cabinet de chasseurs de tête, plus dans des grandes banques, je voulais pas être un numéro, je voulais plus des tailles un peu familiales où on sent une connexion avec les gens. Pour moi, c'est hyper important déjà d'aimer ce que je fais, d'aimer les gens, enfin tout le bon environnement. Donc voilà. Et après, j'étais retournée dans des jobs. Et le dernier job, je m'étais dit, si jamais il se passe quelque chose, parce que c'est des environnements quand même, j'étais dans un hedge fund où on sait que ça peut un jour fermer, se casser la gueule. Et voilà. Je m'étais dit, si jamais ça arrive, eh ben, pour moi, ce sera l'opportunité géniale pour vraiment faire plus de ma peinture, quoi. Pas plus continuer une vie à faire semblant. C'est pas ma vie, quoi. Et j'ai eu de la chance, la boîte pour laquelle je bossais, enfin moi je l'ai vu comme ça, d'autres gens ont pu voir comme pas de la chance, mais la boîte pour laquelle je bossais a fermé, elle a mis la clé sous la porte, ça c'était en décembre 2017. Et vu que j'avais eu quand même, on était en quelle année là, on était en 2017 et ça faisait depuis 2009 que je vendais déjà, je savais que ça faisait ce que je faisais, alors je me suis dit, bah maintenant ce sera l'occasion de creuser plus loin, je prends plus un job là direct, je réfléchis vraiment à ma vie Et donc, quand la boîte a fermé, je suis partie voyager seule pendant 3 mois pour vraiment me reconnecter à moi, en fait. Et un peu me poser les bonnes questions, genre en quoi je suis bonne, qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes passions, enfin, un peu faire un peu le bilan. Et aussi prendre du recul, parce que si on reste avec le même petit environnement, c'est difficile. Donc il fallait que je parte un peu loin. Et aussi, là-bas, non seulement me connecter à mon intuition, me laisser guider, tout ça, mais aussi rencontrer des gens et leur demander, eux, un peu comme toi tu fais, tu leur poser des questions et leur demander un peu qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qui fait qu'ils sont heureux, qu'est-ce qu'ils regrettent, enfin, qu'est-ce que, voilà, comment. Et en fait, ça m'a vachement aidé ce voyage parce que ça m'a. Déjà, ça m'a fait remarquer que je savais déjà, mais d'autant plus, je peux être complètement indépendante, je peux voyager toute seule, c'est pas un problème. Que aussi, il y a plein de façons de vivre et d'être heureux, c'est pas juste ce qu'on nous a dit, métro, boulot, dodo et la façon européenne et machin. En fait, il y a plein de façons. Enfin, en fait, ça m'a ouvert tout un champ des possibles. Plutôt qu'avant, j'étais un peu limitée.
Tu es partie où ? Tu as fait plusieurs pays ou tu es partie dans un endroit
particulier ? Oui. En fait, je suis partie complètement en suivant mon intuition. J'avais rien organisé, mais c'était le but. Parce que si tu as trop un plan organisé, comment tu peux un peu faire le vide et te reconnecter à toi-même si tout est organisé ? Enfin, je sais pas. C'était pas le but. Donc, en fait, j'avais juste pris un billet aller à Ubud. J'atterrissais pas à Ubud, mais j'atterrissais à Denpasar à Bali. Et je savais que j'avais ma première nuit à Ubud. Et voilà. Et le reste, rien n'était planifié. Et je savais que je devais être rentrée 3 mois plus tard pour le mariage d'un de mes frères. Donc, voilà. Et après, rien. J'avais aucune idée. Et en fait, chaque jour, je ne savais pas où j'allais être le lendemain. Je me laissais guider, soit par moi-même, soit par les rencontres, je demandais aux gens qu'est-ce que vous recommandez ou pas, n'importe quoi, comme ça. Et en fait, tous les jours, ou 2, 3 ou 4 jours, ça dépendait, selon comment je me sentais, je bougeais. Et donc, au final, j'ai fait tout le tour de Bali et des petites îles. Il y a plein de petites îles et Lombok et tout ça en un mois. Je suis restée un mois. Ensuite, je suis allée aux Philippines et j'ai bougé aussi, pas mal. Ensuite, je suis allée au Cambodge. Je bougeais aussi pas mal et ensuite en Thaïlande mais vraiment en dernière minute j'étais à l'aéroport, tiens où est-ce que je vais, ah bah il y a un billet à 25 euros, c'est court, tiens Bangkok, génial. Je connais pas, j'y vais vraiment comme ça et même les hôtels, j'avais la chance d'être un peu hors saison, donc en fait c'était pas des hôtels mais des truc charmant, mais et en fait je bouquais qu'une nuit et si j'aimais bien je demandais de prolonger. Enfin c'était vraiment hyper je me laissais complètement guider, c'est trop bien. Et donc donc la Thaïlande ensuite, et puis j'ai terminé, je devais rentrer, donc voilà. Là j'ai fait une expérience. Oui, il y avait une expérience intéressante aussi que j'ai faite en Thaïlande, où j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils voulaient absolument faire ça, et du coup je l'ai fait. Et en fait c'était un endroit qui s'appelle le sanctuaire, et en fait où on peut entre autres faire du jeûne. Et donc là-bas j'ai fait une semaine de jeûne, et en fait ça c'était super pour se reconnecter à toi justement. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais en fait ça fait ressortir plein de choses de toi. C'est comme tu te purifies, comme tu, enfin je sais pas, t'as tout plein de choses aussi où tu comprends plein de choses de ta vie, tes blocages, tes trucs, enfin je sais pas, je trouve que moi ça m'avait vachement débloqué des choses. Et ensuite j'ai terminé bêtement par Hong Kong parce que j'avais des amis qui vivaient là, et voilà.
D'accord.
Mais je me suis vraiment laissée guider.
Trop compliqué.
Ah si, c'était horrible. En rentrant, c'était horrible parce que je n'osais pas encore à cette époque-là m'affirmer comme aujourd'hui, donc je savais qu'il fallait surtout que je change de vie. Je savais que qu'il fallait que je vive de mon art, que c'était moi. Mais j'osais pas encore dire non à ce que ma famille attendait de moi. Donc à peine rentrée, mon père vient juste à l'aéroport, et puis t'en es où il faut se mettre en charge du boulot. Maintenant la vie c'est du sérieux. Et donc je passais des entretiens, mais je ne voulais aucun des jobs, je voulais pas. Donc, je faisais juste des entretiens pour faire plaisir à mon entourage, mais pas à moi. Et donc c'était assez compliqué en fait, et ça a pris du temps pour que je... Mais après l'univers est bien fait, parce que à peine arrivée aussi, à peine rentrée en Europe, je suis prise à une foire d'art de Sachi, je vends une toile à quelqu'un, on me propose deux expos. Enfin donc en fait, même si ma famille me voulait, pas par méchanceté du tout, hein, mais c'est parce que ils pensent, comme beaucoup de gens pensent, que quand on est artiste on est dans la misère et qu'il vaut mieux un job, mais heureusement, l'univers me montrait que j'avais raison dans ma voix, parce qu'on m'envoyait plein de super nouvelles par rapport à l'art qui disaient que j'ai osé vraiment faire ça. Mais au début, en rentrant, je croyais que je pouvais pas, et que c'était horrible la vie, que mon cœur m'emmenait ailleurs, mais que je n'avais pas le droit d'aller où mon cœur m'emmenait. Donc, rentrer, c'était un peu dur, en fait, au tout début. Il fallait, c'est un long processus d'oser vraiment, voilà. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai plus du tout ça, j'ose m'écouter, j'ose marquer mes limites, et je sais que même comment en fait écouter mon corps pour savoir ce qui est bon pour moi, quelle voix, enfin, donc c'est génial. Mais ouais, bon, pour ça prend du temps, ça prend du temps.
Oui, comme tu dis, c'est un processus pour apprendre à s'écouter déjà ses désirs profonds, et puis même aussi au niveau, comme tu le dis très justement, physique, parce que c'est un tout, c'est vraiment une approche, on va dire, holistique et globale. Et donc, pour comprendre, quand tu rentres finalement, tu décides de te mettre à 100% dans l'art, dans la peinture, ou...
Alors oui, mais je n'ose pas encore m'affirmer. Donc mais j'écris tous les jours et voilà. Et je disais, je vais vivre de mon art. Enfin, c'est drôle. Même avant mon voyage, déjà en décembre, j'avais fait tout un dessin avec mes projets. Et j'avais dit, je vais vivre de mon art. Enfin voilà. Même en décembre 2017, avant ça. Donc je le savais, mais je n'osais pas. Je n'osais pas parce que je recevais des messages tous les jours de toute ma famille, t'en es où dans tes recherches de boulot, ceci, cela. Et je sais pas pourquoi, j'osais pas leur dire non, un peu comme si j'étais encore une petite fille, alors que bon, j'avais 35 ans, mais bon, c'est comme ça. Et donc je le savais, mais je n'osais pas encore. Et donc, je faisais semblant. Donc, oui, je vivais de mon art dans les faits, puisque j'acceptais aucun job, mais je passais quand même des entretiens pour tick the box sur papier, je leur fais plaisir, je le fais. Mais en fait, je voulais aucun des jobs qu'on me proposait, hein. Donc voilà. Et donc, c'est pas tout de suite que j'ai vraiment fait. J'ai d'abord fait semblant de jouer entre les deux. Mais c'était semblant parce qu'au final, je prenais aucun job et voilà. Et puis un jour, j'ai osé complètement m'affirmer et voilà. Et j'ai dit que c'était mon choix et que c'était ma vie et que je voulais pas recevoir tous les jours des recommandations sur ce que je dois faire de ma vie. Et voilà. Et donc,
Est-ce que ton entourage t'a écouté et comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont arrêté de t'envoyer justement des offres de job?
Ça leur a pris du temps. Hein. Je pense que ça leur a bien pris un an où ils ont vu que ça marchait bien et que j'étais épanouie et que je me trompais pas, quoi. Ça a bien pris un an parce qu'au début, ils pensaient que je me trompais. Ils disaient, écoute, on adore ce que tu peins, on t'en a même acheté, on est vraiment acheté tout ça. Mais tu te rends pas compte, la vie d'artiste, c'est le plus dur. Ça marchait très bien quand tu faisais ça le soir et le week-end. Pourquoi tu peux pas continuer à faire le soir et le week-end? Et donc eux, ce n'est vraiment pas par méchanceté, c'est parce que eux ne sont pas artistes dans l'âme et ne peuvent pas comprendre. C'est comme des gens qui me disent souvent que ça doit être tellement dur de ne pas avoir une journée structurée, que je me réveille le matin et je ne sais pas comment va se passer ma journée, que ça doit être tellement dur. Mais en fait, moi, ce que je trouve qui est tellement dur, c'est plutôt de savoir, enfin, de tous les jours avoir la même vie, d'aller au bureau. Pour moi, c'est ça qui fait durer d'avoir la structure. Donc, en fait, c'est juste chacun est différent. Donc, pour eux, ce qui est facile, c'est dur pour moi et vice versa. Donc, en fait, voilà, on peut pas se mettre dans la peau d'un autre. On est tous différents.
Et est-ce que, avant de faire ce grand revirement, est-ce que tu as peut-être rencontré des personnes, enfin d'autres artistes qui eux aussi avaient changé complètement d'horizon professionnel, avec qui tu as pu discuter et qui t'ont peut-être, je sais pas, conforté dans le fait que c'était un modèle différent de ce que certains milieux connaissent, mais qu'en tous les cas, c'était un milieu dans lequel tu pouvais très bien t'épanouir et gagner ta vie. Est-ce que tu as eu des discussions, peut-être des rencontres?
Oui, en fait, j'avais même demandé à. Pas forcément d'autres artistes, parce que j'en connaissais pas beaucoup personnellement, vu les métiers dans lesquels j'étais avant et tout ça. Mais. En fait, j'ai rencontré plein de gens. D'ailleurs, il y avait un homme dans mon voyage avec qui je suis encore en contact, de 60aine d'années. Enfin, il m'avait dit « Non, mais Olivia, tu es artiste, c'est certain, tu dois absolument faire ça. » Mais même mes profs, hein, quand j'étais étudiante à Louvain ou à l'ECP, me disaient « Olivia, ne suis jamais les chemins communs, tu n'es pas comme les autres. Hein. » Alors, pourtant, je réussissais, on m'avait toujours dit. Et puis, quand vraiment, je me dis « Non, mais c'est sûr, il faut que je sois peintre, je ne peux pas faire autrement. » Et du coup, j'ai contacté une agent d'artiste qui s'appelle Marine Tanguy à Londres, on s'est vu plusieurs fois, et elle m'a dit, mais Olivia, tu peux tout, complètement. Donne-toi 2 ans, où tu fais que ça, et tu vas voir. C'est pas vrai ce que les gens disent. Moi, je suis agent d'artiste, ça peut marcher, n'écoute pas. Donc ça m'avait réconforté aussi. Oui. Et puis après, de toute façon, c'était plus fort que moi, enfin, à un moment, enfin, voilà. Et aussi, parce que avant, je n'avais peut-être pas fait de travail sur moi, mais là, j'ai fait, depuis que j'avais, enfin, en fait, j'avais déjà commencé un peu en 2015. J'avais fait un truc qui s'appelle Avarap, où c'est justement un coaching, mais en groupe professionnel pour si on veut changer de carrière. Donc, j'avais déjà fait ça en 2015. Et tout le monde m'avait dit, mais Olivia, il faut que tu changes. D'accord. Tu ne peux pas rester en finance, quoi. Mais je n'avais pas osé encore le faire. Et ça a pris toutes des années. Après, j'ai fait… Enfin, moi-même, je fais plein de trucs encore. Je fais tous les jours, pour moi-même, parce que j'adore, du self-development de plein de façons différentes. Donc, j'analyse mes rêves. Je fais des espèces de danse et de dessin et de chant, mais qui viennent vraiment de l'intérieur pour un peu nettoyer tout ce qu'il y a, toutes ces zones d'ombre, enfin tout. Enfin voilà, et en fait, je pense que c'est tout un travail qui fait que j'ai fait, en fait, qui prend du temps, et je médite tous les jours et tout ça, et qui fait que tu apprends tout à coup à te reconnecter à toi-même, et de toute façon, tu sais. Enfin maintenant, j'ai plus aucun doute, je sais m'affirmer, je sais, mais ça a pris du temps, et alors qu'à l'époque, j'avais pas le temps pour tout ça, je me rendais pas compte aussi que c'était important de faire tout ça, donc j'étais passive de ma vie et à faire ce qu'on voulait que je fasse. Et après toutes ces années, enfin depuis 2015, à commencer à faire ce travail sur moi, et encore plus depuis que j'ai plus de temps, et ben à un moment, tu sais qui tu es, il y a plus aucun, en fait on s'en fiche de ce que les gens te disent, parce que t'as complètement confiance en ta propre vérité, en fait on s'en fout, à un moment tu sais, c'est bon quoi.
Mais c'est vrai que c'est pas si évident de s'extraire, il y a plein de personnes pour qui c'est pas évident de s'extraire de ça, et pourtant c'est tellement libérateur. Tellement important parce que c'est d'abord ta vie pas celle de quelqu'un d'autre, donc ça paraît évident, mais c'est pas si simple, je pense.
Oui, ça paraît évident, mais par contre, c'est pas facile de se retrouver soi-même. Donc, même si on se dit, ok, c'est ma vie, mais ok, c'est ma vie, super, mais moi, je suis faite pour faire quoi? Et en fait, vu qu'on a, je pense qu'on le sait dès qu'on est petit, dès qu'on est né, mais on est très vite endormi, conditionné, pas par méchanceté, mais c'est comme ça. On est tous forcément victimes de conditionnement où on ne sait plus qui on est. Donc, même si on se dit non, je suis moi-même, je veux vivre ma vie, et puis tout à coup, il faut se poser la question, mais en fait, c'est quoi moi-même et c'est quoi la vie que je veux? Et en fait, c'est pas forcément accessible à tout le monde comme ça en 2 secondes de le savoir. Et pour le savoir, il faut se reconnecter à son intuition, justement, mais on nous apprend pas ça à l'école. Et moi, c'est mon rêve, justement, c'est qu'un jour, ça marche tellement bien la peinture que je puisse avoir beaucoup de ressources de côté pour pouvoir contribuer. J'adorerais que dans toutes les écoles du monde, on apprenne aux gens non seulement ce qu'on apprend aujourd'hui, parce que c'est super, je dénigre pas du tout tout le côté scientifique, logique, rationnel, c'est très bien aussi, mais qu'on apprenne aussi, en fait, qu'on apprenne dès les enfants dès le plus jeune âge, à méditer, à pas mal de temps d'oisiveté, en fait, pour se laisser guider et savoir qui ils sont, beaucoup d'art, mais pas de l'art en disant coloris entre les lignes, mais de l'art complètement où ils expriment leur propre personnalité, et que ce soit en musique, en danse, en dessin, en écriture, enfin tout, d'essayer vraiment leur propre, et sans critiquer derrière, ah non, c'est pas bien, parce qu'en fait, tout est bien, c'est juste exprimer qui tu es. Enfin, il faudrait qu'on donne de la place à ça à l'école, pour que les gens, en plus d'apprendre la logique et tout ça, la raison, la science qui est super important aussi comme outil, mais qu'ils sachent en plus qui ils sont, qu'ils sachent qu'en fait, ils ont des talents, ils ont des passions, mais on ne nous l'apprend pas. Et voilà. Et si on apprend ça aux enfants dès le plus jeune âge, et du coup, ils font ça toute leur vie, je pense que tout le monde sera beaucoup plus heureux et le monde sera carrément mieux. Donc, j'aimerais bien faire ça un jour. On verra, mais.
Et alors finalement, je me souviens quand on s'était rencontrés, tu m'avais raconté une anecdote en me disant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, alors qu'en fait, tu vas nous en reparler, mais la vente de tes œuvres fonctionne vraiment bien. Tu avais même dû, pour convaincre un petit peu ton père que tu gagnais et que tu pouvais gagner ta vie très bien avec ton nouveau métier, tu sais que tu avais fait une espèce de tableau Excel. Est-ce que tu peux raconter l'anecdote?
Bah oui. Oui, je me souviens de l'anecdote. Mais en fait, j'osais pas le dire là parce que je me suis dit, il va pas être content qu'il entende le truc, mais il n'entendra pas. Mais c'est ça, en fait, on m'a foutu la paix dans ma famille à partir du moment où j'ai envoyé un fichier Excel en disant, j'en ai vendu tant à tel prix, donc c'est bon. Et j'ai dit, ah oui, donc en fait, tu gagnes pas moins ta vie qu'avant, bon, c'est très bien. Voilà. Mais c'était pas méchant de leur part non plus, mais c'est juste normal, ils ont peur qu'on se retrouve à la rue un jour, que je sais pas quoi. Oui. Et c'est vrai qu'être artiste a une réputation comme ça. Et comme moi, je ne disais pas ce que je vendais, quand, comment, ils avaient aucune idée. Au moins, là, ils ont vu sur papier, ça les a rassurés. Ce qui est normal, quelque part, on peut pas leur en vouloir. Hein. Mais...
Et alors finalement, est-ce que tu as à l'inverse, même si là voilà, tu t'es reconnecté comme tu disais en faisant ce métier à plein temps, est-ce qu'il y a des difficultés qui te sont apparues que tu anticipais pas forcément auparavant? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est le plus dur malgré tout au quotidien ou de manière générale avec ce métier d'artiste?
Pour moi, franchement, il y a zéro chose difficile, 0000 quoi. Mais je peux imaginer que pour quelqu'un qui... peut-être parce que je suis quelqu'un qui n'est pas peur du risque et peut-être un peu inconscient de quelque part, mais peut-être que pour quelqu'un qui est plus... c'est sûr que je ne peux jamais savoir tous les mois à l'avance combien je vais avoir ou combien je vais avoir dans l'année. Enfin voilà, mais pour moi, ça ne me pose pas de problème. Enfin, c'est le prix de ma liberté. Enfin voilà, c'est le prix de pouvoir vivre de mon cœur, de pouvoir être heureuse. Mais peut-être que d'autres personnes qui ont une famille à nourrir et tout... C'est super important de savoir exactement combien on va avoir chaque mois. Moi, je ne sais pas ça. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas de famille à nourrir, je suis toute seule. Et en plus, je m'amuse avec un rien. Donc, je n'ai pas besoin d'une énorme maison ou de voyager partout. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime dans ma vie, c'est danser, chanter, écrire, rêver, peindre. Je peux faire ça n'importe où. Je n'ai pas besoin d'un... Enfin, voilà. Donc pour moi, il n'y a rien qui me stresse du tout. Le seul truc qui me stressait, mais plus maintenant, c'était justement de pas oser être complètement moi-même et donc de pas oser exprimer tout ce que j'ai vraiment exprimé. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai choisi la façon publique d'exprimer qui je suis par la peinture, parce que la peinture, on sait pas vraiment ce que ça veut dire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut s'imaginer ce qu'il veut. En fait, avec la peinture, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment... En fait, moi, je me connecte vachement à tout ce qui est le monde un peu... le monde invisible, inaudible, enfin un peu j'ai des sens hyper développés et donc en fait c'est pour ça que j'ai une peinture abstraite. J'ai l'impression que c'est une information que je reçois et que je transmets et que c'est guidé et c'est toute la subtilité du monde pas matériel mais voilà, et c'est cool et de le mettre dans la matière et voilà, mais à la fois c'est ça reste une partie pudique de me dévoiler. Et en fait je pense que j'ai énormément de choses à exprimer que je suis pas obligée d'exprimer publiquement devant tout le monde, mais je pense que je suis toujours restée un peu timide, un peu parce que voyant que j'étais différente, tu n'oses pas trop exprimer qui tu es. Et pour moi, ça c'était toujours difficile, ouais. Et ça c'était la difficulté de me dire jusqu'où je vais oser aller dans mon art, qu'est-ce que je vais oser exprimer en fait vraiment de tout ce qui bouillonne en moi. Et ça c'est le truc un peu dur, ouais, d'oser en fait se montrer, se dévoiler, voilà. Mais au final, la peinture, c'est un langage où je trouve que on ne montre pas tant que ça, et est libre à chacun de raisonner ou pas, et chaque personne raisonnera de façon différente de toute façon. Et donc en fait, Ouais, je pense que comme tout le monde, j'avais toujours un petit peu peur, mais j'ai plus du jugement des autres, de machin, de est-ce que j'ose être complètement qui je suis dans toute ma folie. Donc oui, ma seule crainte, donc j'ai aucune crainte dans mon métier, j'adore, je peux être complètement moi à 100%. Ma seule crainte, c'est ouais, j'avais quand même toujours peur du ouais d'exprimer entièrement ouais toutes mes couleurs et toute ma folie, peur du jugement. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai plus peur du jugement et parce que je me dis, de toute façon, il y aura toujours des gens pour t'aimer, pour pas t'aimer. Enfin, c'est comme ça la vie, on s'en fout. Et si on a peur du jugement, eh ben, on n'ose pas être nous et on peut pas être épanoui. Et on... Voilà. Donc en fait, donc maintenant, c'est bon. Mais c'est le seul truc qui me faisait peut-être peur. Mais alors à ce moment-là, artiste ou pas artiste, en fait, on va dire. Et sinon, dans le métier d'artiste, non, il y a rien. Enfin, ça me correspond. C'est ça.
Ce qui est intéressant, c'est que comme tu peins effectivement de l'abstrait, ça permet, comme tu le disais, à chacun et chacune d'avoir sa propre aussi interprétation en fonction de toi, ce que tu as capté et décidé de délivrer dans le rendu final. Mais chacun y voit sa propre interprétation. Et alors, tu as un site qui est oliviadeposson.com où on peut voir, et aussi sur ton Instagram, où on peut voir les différentes œuvres et puis les vernissages que tu fais. Tu as différents styles, même si ça reste bien sûr de l'abstrait. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent plus que d'autres? Enfin, comment te vient l'inspiration quand tu peins, en fait?
Oui. Donc, mon inspiration, c'est l'intuition. Donc, ça ne s'explique pas de façon mentale. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui fait les choses en écoutant son mental. Je suis quelqu'un qui fait les choses en écoutant mon cœur. Je me fais complètement guider. C'est moi, mais c'est pas que moi. Et en fait, mais tout a été comme ça. Même mes études et mes cours et mes trucs, c'était intuitif. Hein. Je faisais même les maths de façon intuitive. Hein. Ça paraît bizarre, hein. Mais donc du coup, rien. Je peux pas vraiment mettre des mots. C'est au-delà des mots sur ce que je fais. Je ne sais pas. Alors, en fait, ça vient de deux façons. Soit je me laisse complètement guider par quelque chose de, par ma vraie essence. Soit je médite sur une intention particulière avant et ensuite je la peins et je la laisse sortir de moi. Mais parfois je ne médite pas sur l'intention, je laisse tout seul ce qui vient et je sais que je fais confiance que ce qui va venir c'est ce dont on a besoin maintenant quoi. Enfin je sais pas, c'est comme ça. Mais je vis comme ça pour beaucoup de choses. Hein. C'est comme ça que je m'étais laissée guider en voyage. C'est comme ça que je danse, que je chante. Enfin, je laisse tout. En fait, c'est de l'intuition. Et l'intuition, pour moi, c'est un peu une magie. C'est un peu divin. C'est un peu. Voilà, en fait, c'est ça. Il n'y a pas. Et alors, à chaque fois, je comprends. Alors, soit je mets une intention avant, mais si je n'en mets pas avant, je comprends par après ce que j'ai voulu exprimer. Et donc, par après, de faire en conscience ce que mon intuition a voulu me dire et quel est le thème. C'est d'abord mon cœur qui peint, mon intuition, mon cœur, quelque chose de plus haut qui peint. Et ensuite, une fois que la peinture est faite, je vais intellectualiser et essayer de comprendre le message. Parce que je sais que c'est un message qui fait vibrer mon cœur en ce moment, je trouve que c'est important, et voilà. Ou alors, je médite sur une intention avant, et alors je sais déjà qu'il y a un message, mais quand même, je ne force pas mes gestes, je les laisse toujours couler. C'est fluide, c'est comme je force jamais mes gestes.
Oui, il y a une sorte de lâcher prise quelque part d'ailleurs qui se retranscrit très bien dans ta peinture. Et alors, une question qui me vient, parce que dans nos sociétés, tu vois, et dans les métiers beaucoup plus standardisés actuels, c'est souvent l'inverse, c'est-à-dire qu'on intellectualise d'abord et on a tendance à taire un petit peu notre intuition, notre ressenti. Ouais. Ma question, c'est quel conseil est-ce que, parce que toi, tu es comme ça depuis très jeune et de manière assez naturelle, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui, au contraire, tu vois, sont très dans le rationnel, dans l'intellectualisation, mais qui aimeraient essayer de plus écouter leur enfant intérieur et leur intuition pour y parvenir? Parce que tu parlais de méditation, tu parlais d'intention. Est-ce que tu as des conseils un peu pratico-pratiques qui peuvent aider à suivre?
Ouais, carrément. Et après, chacun trouve sa voie. Donc, je ne sais pas ce qui a marché pour moi, qui va marcher pour d'autres. Et surtout, comme tu dis que moi, je suis née comme ça, si tu veux. Enfin, voilà. Mais je pense qu'on est tous capables de ça. Il y en a, ça leur demande plus d'efforts que d'autres, c'est tout. Mais quand même, j'ai quelques conseils. Ça ne veut pas dire que ça marchera pour tout le monde, encore une fois. Mais donc, comme tu as dit, la méditation, également de se connecter à la nature, mais vraiment en regardant autour de soi, en se sentant avec tous ses sens, quoi. Tu touches, tu sens, tu t'es pieds nus dans l'herbe, voilà. Mais aussi, En fait, c'est super, hein, comme tu peux faire. Tu peux très bien avoir une intention. Je sais pas, moi, j'ai envie de nettoyer toutes mes ombres aujourd'hui, ou je veux, enfin, nettoyer moi un peu des traumatismes émotionnels, j'en sais rien, ou je veux être dans la joie aujourd'hui. Je choisis ce matin d'être dans la joie. Bon, par exemple, j'avance. Et en fait, ou je veux me connecter à mon intuition. C'est tout. Tu dis juste ça. Je veux me connecter à mon intuition. Et en fait, donc tu fermes les yeux un peu là-dessus, tu respires, tu dis que c'est ton intention. Et ensuite, tu prends un crayon et une feuille de papier. Et tu te lâches et tu dis que ce dessin, eh ben, après, quand il va te regarder, il va te donner cette énergie qui va te permettre de te connecter à ton intuition à chaque fois que tu le regardes, par exemple. Ou, et c'est un dessin pas calculé où tu laisses ton bras aller tout seul. Ou, tu fais ça en danse. Moi, je trouve ça vachement génial. Ça te libère de plein de choses. Ou tu, pareil, tu mets une intention. Et ensuite, tu te laisses guider ta main vers une musique au hasard. Tu fermes les yeux. Et hop, la musique arrive et tu te lâches et tu danses. Et ta danse, elle vient de l'intérieur. Tu la contrôles pas, tu sais pas. Et voilà, tu fais ça. Alors c'est plus compliqué d'oser avec la parole, moi je trouve, mais tu peux faire ça aussi avec la parole, où tu chantes, ou alors soit tu parles des vrais trucs, tu dis des vrais mots, soit tu juste des sons, mais pareil avec une intention et tu les laisses sortir tout seul et tu t'enregistres. Hein. Oui. En fait, à chaque fois, tu peux t'enregistrer, sinon tu te rends peut-être pas compte et tu vas avoir plein de trucs qui vont sortir. Et en fait, c'est ton intuition là qui est en train de parler. Tu peux faire ça même juste avec des gestes de la main qui viennent tout seul. Hop. Du bien, et en fait c'est marrant et t'apprends en fait à te connecter à quelque chose de plus haut ou ton essence, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas ce que c'est exactement l'intuition, enfin si moi j'ai même mon idée mais je veux pas imposer mes points de vue, mais et ça c'est des exercices hyper faciles à faire tous les jours, donc tu médites, tu danses, tu peins, t'écris, ah oui l'écriture automatique aussi, tu prends une page blanche et voilà, tu contrôles rien, tu laisses tout seul, toi avec une intention avant, toi pas. Et tu vois, ça, et là, c'est ton intuition qui parle. Et en fait, c'est des trucs que tout le monde peut faire. Et alors, au début, ça paraît peut-être super dur pour des gens qui n'ont pas l'habitude. Mais quoi, j'ai ma page blanche. Et peut-être qu'au début, ce ne sera pas vraiment l'intuition qui parle. Peut-être qu'en fait, tu forceras un petit peu les choses. Mais plus tu le feras, plus un jour, ça va être le vrai lâcher-prise, ça va être vraiment l'intuition. Et donc, en fait, il y a plein d'exercices comme ça.
Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est une forme aussi de gym dans le sens où c'est pas parce que ça marche pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois, et que ça paraît justement contre-intuitif au début, qu'il faut pas essayer de persévérer pour justement creuser aussi cette autre partie du cerveau qu'on a tendance un peu à taire et même au-delà du cerveau, à notre cœur et ce qu'on porte à l'intérieur. Donc
en fait, ça c'est génial. Hein. Moi, j'arrive maintenant à être super connectée à tous mes ressentis, je sens à chaque endroit dans mon corps, donc dès qu'il y a un truc où je sais que c'est fait pour moi, c'est mon chemin, ça vibre de façon extrêmement positive à des endroits, et dès que je sens qu'il y a un truc qui n'est pas bon pour moi, hop, ça vibre de façon négative, je sens que c'est un mal, enfin, c'est génial, avant je ne savais pas me connecter à mon corps comme ça, en fait plus tu es dans l'écoute de toi, de lâcher prise, de le laisser parler ton intuition, plus tu te retrouves vraiment toi-même, et plus en fait c'est ça les clés, c'est pas ton mental, et ton mental et ta raison elle est géniale, après, moi je pense que que pour faire les bons choix, pour être sûr que tu es sur ton chemin, il faut surtout pas le mental. Parce que le mental, ça va pas être toi, ça va être par rapport à les règles de la société. Donc, ça va pas du tout être toi. Donc, pour prendre ton choix, il faut écouter ton intuition et ton corps et ton cœur. Mais encore une fois, c'est pas facile, ça s'apprend. Ça prend du temps parce qu'on a tellement pas l'habitude, on est tellement pas éduqué comme ça. Mais un jour, on peut tous y arriver, ça prend juste le temps que ça prend. Et je pense que c'est ça qu'il faut écouter pour prendre un choix. Et une fois qu'on a pris son choix, le mental, la logique est super utile pour ensuite mettre en place tout ton projet dans la bonne direction. Enfin, voilà. Mais c'est pas le mental qui va prendre le bon choix pour toi. Le mental, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Enfin, ça, c'est mon avis. Hein. Après, je n'ai pas la vérité universelle. C'est mon avis à moi. Après.
Bien sûr. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a pas, on n'entend pas souvent ça. Donc, c'est justement ce qui je trouvais intéressant. Alors, pour terminer, Olivia, une question, parce que est-ce que tu dirais, quand tu sais que ce podcast s'appelle Les Ambitieuses, c'est sur la notion d'ambition qui, moi, je trouve, est vue de manière péjorative aujourd'hui, alors que pour moi, ça correspond tout simplement au fait, justement, de ce que tu fais toi, c'est-à-dire d'oser vivre la vie qui te correspond, et c'est aussi pour ça que j'ai tenu à t'inviter dans ce podcast-là. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'ambition? Est-ce que tu dirais que finalement, c'est suivre son intuition profonde? Enfin, comment tu perçois ça?
Ouais. Donc moi, je trouve que l'ambition, c'est génial, mais en effet, tout dépend de la définition qu'on donne à l'ambition. Mais pour moi, l'ambition positive, qu'est-ce qu'on veut tous, c'est d'être dans la joie et la sérénité, de pouvoir être nous-mêmes et s'accepter nous-mêmes et s'aimer nous-mêmes et nanana. Et donc, comment c'est l'intuition? Oui, pour moi, c'est ça. Je souhaite que tout le monde, en fait, ose creuser un peu qui ils sont vraiment, faire ce travail qui n'est pas facile, hein, mais nettoyer leurs ombres et tout, creuser qui ils sont vraiment pour ensuite, en fait, croquer la vie à pleines dents, quoi. Parce qu'une fois que tu as fait ça, c'est génial. Tu peux content être dans la joie, mais tout le temps, quoi. Et même si t'arrives des trucs, bah oui, il nous arrivera toujours des trucs, mais tu prends ça comme une expérience pour grandir. Et en fait, mon rêve, c'est que tout le monde ait l'ambition d'être heureux, quoi, tu vois. Et donc, d'oser rêver, d'oser croire en leurs rêves, d'oser prendre des risques, enfin, des risques, d'oser risquer, ne pas conformer, d'être eux-mêmes. Je dis pas qu'il faut absolument ne pas conformer, hein. Est-ce qu'il y a trop soi-même, c'est conformer, c'est génial. Mais en tout cas, d'être connecté à soi, d'apprendre à se connecter à soi, et du coup, bah, d'oser faire les changements qu'il faut pour être vraiment heureux, être vraiment bien, être vraiment serein, être dans sa propre vérité, avoir confiance en sa propre vérité. Et être soi-même et serein, quoi. Du coup, à ce moment-là, c'est plus en compète avec les autres, ou jaloux des autres, ou qu'est-ce qu'on va penser de moi. En fait, non, c'est super heureux et serein tout le temps. C'est juste toi, et l'autre est juste lui, et c'est normal, on est tous différents, c'est ça qui est génial.
C'est intéressant quand tu dis d'oser prendre des risques, parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que quand on ose justement prendre des risques, finalement, le risque, en réalité, il est beaucoup moins important que ce qu'on imaginait, en fait. Et que finalement, c'est plus le fait de pas oser et de passer à côté de certaines choses de sa vie qui a un coût beaucoup plus important sur le long terme.
Exactement. En fait, c'est plutôt ça, le risque. Parce qu'au pire, si tu prends un mauvais chemin parce que t'as osé risquer un truc et en fait tu te rends compte que tu t'es trompé, bah c'est pas grave, tu vois, tu peux toujours encore changer, on peut toujours changer de voie, donc c'est pas du tout grave, le risque n'est pas grave. Alors que par contre, le risque de ne pas oser, il est grave parce que tu vas passer toute une vie terne, pas heureux, à stresser tout le temps, à être frustré parce que t'es pas bien, parce que t'es pas là où tu devrais être. Bah ça c'est horrible, en fait c'est dommage, c'est carrément dommage, parce que la vie elle peut être tellement géniale quand tu vois, quand on ose. Et c'est pas grave, comme on a dit, si on se trompe on va peut-être pas trop tout de suite arriver à se connecter à soi, et en fait on va croire que c'est ça et on va se tromper. Bon, on s'en fout, on peut toujours changer, on peut avoir plein de vies en une vie, enfin voilà. Et puis on n'est même pas obligé d'avoir qu'un métier au final, hein. Je pense que faut pas non plus croire, enfin je dis pas que moi je vais en avoir plein, c'est pas ça, mais je veux dire, c'est que parfois si les gens se limitent en disant je dois dire que je suis banquier ou que je suis je sais pas quoi, bah non, si t'es bon en plein de choses et que t'as le temps de faire plein de choses, surtout avec le monde d'aujourd'hui où en fait on peut travailler d'où on veut, on peut être un peu auto-entrepreneur, enfin rien ne t'empêche de suivre toutes tes passions, tout ce que là où ton cœur te guide, enfin je sais pas, en fait tout est possible, en fait tout est possible.
Bien sûr, je pense que ça va être de plus en plus vrai en plus dans les années à venir, comme tu le dis. Et souvent on a ce besoin de se raccrocher à une notion de statut en disant je suis ci, je suis ça, ou je fais ci, je fais ça, alors que finalement c'est souvent trop réducteur pour nous définir en tant que personne en plus. Donc t'as totalement,
c'est prévu. Oui, notre essence elle est c'est ça, et puis notre essence elle est toujours elle est bien plus grande que ça. Et après, bah, les jobs, c'est juste un costume, quoi. C'est juste, hein, c'est pas qui on est vraiment, on s'en fout. Enfin, et par contre, il faut prendre un job qui nous rend heureux, autant, parce qu'après, on passe tellement de temps là-dedans.
Et j'ai une dernière question pour toi, Olivia. Ouais. Si t'avais quelque chose à refaire différemment, est-ce que tu penses spontanément à une chose que t'aurais fait?
Non, il y a rien. Tu sais quoi? Je me dis souvent que, et pourtant j'ai eu des merdes dans ma vie, hein. Franchement j'en ai eu plusieurs, c'est normal, mais rien de grave non plus, hein. Je suis pas, voilà. Mais non, je recommencerai, et les mêmes merdes aussi, parce que en fait c'est grâce à ces obstacles que je suis allée creuser plus loin, et que j'ai vraiment fait le travail de nettoyer. Donc si c'était à refaire, je referais exactement la même chose et les mêmes erreurs. Parce que c'est grâce à ces erreurs que je suis allée creuser, que j'ai dû faire tout ce travail, ou j'ai voulu faire, j'ai pas dû, mais j'ai voulu faire tout ce travail pour vraiment faire renaître qui je suis vraiment, et que du coup je serais pas où je suis aujourd'hui, j'imagine, ou je serais peut-être ailleurs qui me convient aussi, hein, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis tellement bien où je suis maintenant que je voudrais rien changer, même si j'ai eu des moments où j'étais pas bien, mais ça m'a appris plein de choses. Non, je pense, franchement, je ne changerai absolument rien. Zéro. Ouais. Zéro. Donc,
ouais. Bon, bah écoute, c'est top. hyper intéressant. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment de partage et puis surtout d'inspiration.
Bah, merci à toi, justement. C'est trop bien. Bah attends, mais merci, c'est génial ce que tu fais, parce que tu vois, moi mon rêve, c'est que tout le monde ose en fait être heureux et suivre son cœur et voilà. Et donc j'espère que je donne un peu cet exemple en ayant osé le faire avec la peinture. Et toi, c'est génial parce que tu partages ça vraiment publiquement avec les mots, en interviewant des gens qui ont fait ça. Donc tu es aussi en train d'inspirer les gens à oser être heureux. Donc tu vois, c'est génial quoi. Il faut plus de gens comme toi.
Bah écoute, oui, le but c'est de pouvoir justement mettre en avant des parcours aussi divers soient-ils, tu vois, de métiers différents, d'aventures, de femmes qui ont suivi des horizons qui leur correspondent et qui justement pour moi ont cette ambition d'assumer qui elles sont. Et je pense que c'est en communiquant au maximum là-dessus pour prouver à des personnes qui aujourd'hui sont dans des schémas qui leur correspondent pas que c'est possible et que finalement c'est pas une montagne à gravir, que c'est peut-être un processus comme ça a été pour toi qui peut être un peu long.
Ah, mais ça vaut le coup.
Tous les cas, que ça vaut la
peine. Ça vaut le coup parce que c'est voilà. Franchement,
Bah Olivia, merci beaucoup. Et puis je mettrai dans les notes de l'épisode, je mettrai le lien vers ton site internet où on peut aussi retrouver tes œuvres d'art. Qui sont, je trouve, pleines de joie et qui passent des messages très forts. Donc, merci en tous les cas d'avoir été sur le podcast.
Merci mille fois et bravo pour ce que tu fais et à très bientôt.
À bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez me suggérer une invitée, une femme au parcours inspirant et ambitieux, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Les Ambitieuses Podcast, ou sur LinkedIn à Laura Le Sueur. Une dernière chose, si vous voulez soutenir ce podcast, le meilleur moyen de le faire est de mettre 5 étoiles et même un commentaire sur iTunes, Apple Podcast. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous que les seules limites à vos ambitions sont celles de votre esprit. She's just a girl, but she's on fire.